Bonjour Maëlys et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur France Culture et nous passons un dernier jour à Barcelone dans la compagnie des auteurs. Une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurane Travagli-Chanal, Milena Hellig, Laurence Millet, Laurence Genepin et Pierre Faucillon. La capitale catalane est le décor et le terrain de jeu de notre série cette semaine à l'occasion de la parution du livre Barcelone, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire sous la direction de Pierre Ducrozet dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Il nous a parlé de ce livre lundi dernier, justement au cours d'une émission dédiée plus largement à l'imaginaire littéraire de la grande cité méditerranéenne, imaginaire sur lequel la géographe et agent littéraire Sophie Savary est également revenue. Mardi, Pierre Ducrozet toujours, mais accompagné cette fois par l'écrivain Mathias Sénard, nous a montré les lieux qui ont marqué des auteurs comme Jean Genet, André-Pierre de Mandiargue, Orwell ou encore Bolaño. Enfin hier, notre émission était dédiée au père du détective Pepe Carvalho, l'auteur de polar Manuel Vázquez Montalban. Nous étions en compagnie de Michel Gazier et du fils de l'écrivain. Et aujourd'hui ? En point d'orgue à notre série, nous vous proposons en deuxième partie une rencontre avec un auteur et universitaire catalan important mais qui n'est malheureusement pas encore traduit en français. Il s'agit de Raphaël Argullol. Il nous parlera notamment du spectre de Gaudi qui plane toujours sur la ville. Mais pour commencer, un entretien avec l'écrivain Javier Cercas sur la Catalogne, l'indépendance et la question des frontières entre fiction et réalité. Bienvenue à vous, voici la compagnie des auteurs. Javier Cercas, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous dans votre bureau que certains de vos lecteurs connaissent, ceux qui ont lu L'Imposteur en tous les cas, puisque vous l'évoquez un tout petit peu, vous le mentionnez. Vous êtes écrivain, on le sait, vous enseignez également la littérature à l'université de Gérone, mais c'est à l'université de Barcelone que vous avez fait vos études avant de publier votre premier roman, Le Mobile, en 1987, qui a été traduit en France en 2016 seulement, c'est aux éditions Actes Sud. Actes Sud où toute votre œuvre paraît depuis 2000. 2000, c'est l'année de votre quatrième roman. On l'a traduit en français sous le titre Les soldats de Salamine. C'est un livre qui a connu un très grand succès, qui a été traduit dans le monde entier. Un film a été tiré de ce livre, un film de David Trueba. Et c'est un roman qui tourne autour d'un angle mort de la guerre d'Espagne, la fusillade à laquelle l'écrivain et phalangiste Rafael Sanchez Massas aurait échappé pendant les derniers jours de la guerre. Alors on parle toute la semaine dans la compagnie des auteurs du rapport de Barcelone avec ses écrivains. Est-ce que cela a du sens pour vous de vous qualifier aujourd'hui, Javier Cercas, d'écrivain barcelonais ?
Vraiment, je ne sais pas. J'habite à Barcelone. J'ai vécu ici pendant beaucoup d'années. J'ai étudié ici. Mais je ne crois pas que Barcelone, c'est ma cité. Je suis né dans un tout petit village. En fait, mon dernier livre, qui sera publié en France, je crois, en septembre, pour la première fois, parle de ce village, de ma famille, de mes origines. Et quand j'avais 4 ans, mes parents ont venu ici, en Catalogne, c'est-à-dire Gérone, aussi un petit village, Et je me sens plus en écrivant de ces lieux, de Barcelone. Évidemment, Barcelone, ça a été très important pour moi. Mais je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment je dois être qualifié.
Est-ce que quand vous étiez un adolescent, jeune adolescent à Cáceres, donc en Extrémadour, tout à fait l'opposé d'ici, de Barcelone, est-ce que vous imaginiez cette ville différemment de ce que vous avez découvert en y habitant? Est-ce que votre imaginaire se portait sur cette très grande ville quand même, qui peut-être vous faisait rêver quand même?
Oui, mais quand j'étais adolescent, j'étais à Gérone, qui est très proche de Barcelone. C'est-à-dire, Barcelone pour moi était la capitale, et bien sûr, je rêvais d'être ici. J'avais besoin d'habiter ici, mais en même temps, j'ai découvert, quand j'étais grand, que ça n'était pas aussi important qu'à mon âge, et pour un écrivain. Habiter dans une grande cité, c'est pas très important. Ce que c'est important, c'est ce que tu fais dans ta maison, ce que tu lis, où est-ce que tu vas, surtout c'est ce que tu écris.
Alors c'est tout de même ici que vous avez découvert, je crois, Kafka, que vous avez découvert Borges.
Oui.
C'est dans cette ville que vous vous êtes fait une culture littéraire, parce que ça correspondait à l'âge finalement où on se l'a fait. Est-ce que vous avez aussi découvert des écrivains catalans quand vous êtes arrivé, puis quand vous avez fait votre université ici à Barcelone?
Oui, mais je suis un écrivain catalan dans certains sens. Je n'écris pas en catalan, mais ma langue, je suis bilingue absolument. Alors, la littérature catalane, la littérature espagnole, pour moi, sont deux littératures qui sont mes littératures.
Vous diriez qu'elles sont très différentes, hein, l'une de l'autre?
Non. Non, il n'y a pas une différence essentielle entre la littérature espagnole et la littérature catalane, et entre la littérature espagnole et la littérature française ou italienne. Il y a une communication très forte, et surtout entre la littérature catalane et l'espagnole, parce que tous les écrivains catalans sont bilingue, alors tout lise la littérature espagnole, nous habitons dans le même pays, alors il n'y a pas une différence essentielle. Mais un écrivain n'habite pas dans une seule langue, je n'habite pas dans une seule langue. Je lis en français, je lis en italien, et aussi en catalan, et le catalan c'est très proche.
Et vous écrivez uniquement en castillan?
Oui, mes livres, oui. On ne choisit pas sa langue. C'est la langue qui choisit l'écrivain. Ça, c'est très simple, parce que nous avons une expérience. Nous avons... l'espagnol, c'est ma langue maternelle. Je peux écrire en catalan. J'ai écrit en catalan. En fait, j'ai commencé à écrire dans les journaux en catalan. Mais c'est pas ma langue intime. C'est pas la langue plus essentielle pour moi. Mais si l'espagnol disparaissait un jour, j'écrirais en catalan, sans doute.
Mais pour les lecteurs français, qui sont très peu nombreux, je pense, à parler le catalan et même à l'entendre, quel serait le rythme de la langue catalane par rapport à la langue espagnole et par rapport même à la langue française que, par ailleurs, vous parlez, on l'entend très bien?
Les rythmes? Ah, ça, c'est difficile. Ça dépend. La sonorité de Cervantes, c'est pas la même que la sonorité de Borges. C'est complètement différent. Et même je ne pourrais pas décrire quelle est la sonorité de Cervantes. Il sonne Cervantes. C'est tout. Non. Mais les Catalans, l'espagnol, comme le français, comme l'italien, en fait, sont la même langue. Sont latin mal parlé. Je parle français.
On parle tous du latin de cuisine.
Oui, c'est latin. Alors, ce sont des langues très proches. Mais très proches. Écoutez, il y a un moment que se souvient où Don Quixote et Sancho Panza viennent ici à Barcelone, arrivent à Barcelone, et ils trouvent des brigands, et ils sont avec eux. Et les brigands parlent catalan, et Don Quixote et Sancho Panza parlent espagnol. Et on se comprend parfaitement. Mm-hmm. Pas de problème, parce que ce sont des langues très proches, sont des langues, sont sœurs. Alors, créer un problème entre l'espagnol et les catalans, c'est ridicule. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent créer des problèmes, parce qu'ils ne doivent pas avoir un problème. Si Don Quixote et Sancho n'avaient pas un problème, pourquoi nous avons des problèmes? Ça, c'est complètement ridicule.
Et c'est là où la politique rejoint la littérature.
C'est vraiment un problème politique, ce n'est pas un problème linguistique ou littéraire.
On viendra peut-être justement un peu plus loin dans l'entretien sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre grand écrivain catalan qui est Eduardo Mendoza et qui a écrit justement sur Barcelone, notamment le livre La ville des prodiges, que peut-être vous avez lu au moment de sa sortie. Ça doit correspondre à peu près au moment où vous étiez ici à l'université. Vous avez des souvenirs de cela?
Oui. Bon, je connais l'œuvre de Mendoza. Très bien. On peut dire qu'il est vraiment un écrivain de Barcelone. Il est né ici. Il est très barcelonais, en certain sens.
C'est-à-dire?
Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, mais il l'est. Et oui, la vie des prodiges, c'est peut-être... Mais on peut dire qu'Eduardo Mendoza, c'est l'écrivain barcelonais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, il parle de les passions des hommes. C'est-à-dire de l'amour.
Il a écrit un livre sur cette ville-là, quand même.
C'est un livre sur Barcelone, ce livre? Je ne suis pas sûr. Oui, peut-être.
On ne peut pas écrire un livre sur une ville, en fait.
Oui, et je crois ça. C'est-à-dire, je crois que La ville des prodiges, c'est un livre sur l'ambition. Et l'ambition, c'est universel. C'est comme l'amour, non? C'est comme la haine. Et les grands romans ne parlent pas des choses concrètes. D'une ville, parler des hommes et des femmes, non? Onofre Bobila s'appelle le protagoniste de la cité de prodiges, soit un homme spécialement caractéristique de Barcelone. Je crois qu'il est universel. Pourquoi c'est un bon roman.
Je voudrais vous faire écouter justement un entretien, un petit morceau, hein. Je voudrais vous faire écouter ce qu'Eduardo Mendoza disait de ce que représente Barcelone pour les écrivains de sa génération, interrogé par Gérard de Cortance en 1992.
Barcelone, c'est pas disons la place où les romans se déroulent, mais c'est aussi un peu les protagonistes du roman. Et ça, c'est aussi le cas de ces écrivains de Barcelone, de ma génération. Je pense à Vázquez Montalbano, Juan Marsé. Je crois que Barcelone, c'est comme symbole de l'Espagne, nous avons la nécessité de découvrir ou de redécouvrir ces villes, ces pays qui nous a été donné toujours déguisé par une rhétorique officielle. Nous sommes nés après la guerre, nous sommes nés dans un état qui était le fascisme avec Franco, qui était un chapeau qui couvrait tout. Alors on a vécu entouré d'une sorte, je ne dirais pas des mensonges, d'un état imaginaire, d'un état idéal. La censure, c'est un élément très important. On a l'idée, hors de l'Espagne, que la censure veut dire biffer de mots, défendre de parler de certaines choses. Ce n'est pas ça seulement. C'est aussi le monopole de la pensée, de l'histoire, de la mémoire collective. Alors, il nous a fallu chercher par nous-mêmes ce qui était la vraie histoire, découvrir cette mémoire collective qui n'était nulle part.
Javier Cercas, sur cette génération d'écrivains marquée par le franquisme que représente Mendoza, qu'auriez-vous à dire par rapport à la génération que vous représentez, qui est une génération qui vient tout de même après? Est-ce que on a là deux générations successives qui sont très différentes? Est-ce que ça crée des littératures qui sont pour vous très différentes?
Je ne sais pas, elles sont différentes, évidemment. C'est vrai que j'avais Mendoza avec une partie importante de sa vie sous le franquisme. J'étais 13 ans quand Franco est mort, alors il y a une différence. Mais toujours, ce que fait la littérature, c'est ce que veut faire la littérature, c'est démasquer la réalité qui est cachée par les discours du pouvoir. Mais dans mon cas, au moins, aussi, je devais faire ce travail de démasquement de mon passé. Parce que Mendoza, c'est un fils de la guerre. Je suis un grand-fils, non.
Petit-fils.
Un petit-fils de la guerre. Mais la guerre et le franquisme ont été toujours ici. Ce n'est pas passé, ce n'est pas un passé.
Et puis vous avez ressenti le besoin quand même de vous replonger dans la période de la guerre précisément,
oui,
et d'aller essayer de comprendre un petit peu vos parents, vos grands-parents, enfin oui. Métaphoriquement.
Oui, parce que c'est passé, n'a pas passé. C'est passé, c'est une dimension du présent sans laquelle on ne peut pas comprendre le présent. Il y a une différence entre ma génération et la génération de Mendoza, je dirais. C'est le fait que, Omar Sy ou Montalbán, pour parler des écrivains de Barcelone, c'est le fait que nous, quand on a commencé à écrire, nous ne voulons pas savoir rien du passé, précisément. De la guerre, de la pré-guerre, du franquisme, tout ça. Parce qu'on avait écrit beaucoup sur ça, parce qu'on avait fait de films sur ça, parce qu'on avait parlé énormément sur ça. Et nous voulons être, disons, européenne, normale. C'est-à-dire, vous savez, post-moderne. Mm-hmm. Non? Et à un certain point, au moins dans mon cas, j'ai arrivé à cette idée que j'étais trompé, que le passé était essentiel, que sans ce passé, il n'y avait pas de présent. J'insiste, c'était une dimension du passé, du présent, sans lequel le présent n'avait pas de sens, sans lequel le présent était mutilé.
Et donc vous vous êtes mis à réfléchir sur ce passé et vous avez notamment réfléchi sur la trajectoire de cet homme qui s'appelle Enric Marco, je ne sais pas comment on le prononce en espagnol.
De Barcelone, vraiment. Dans ce sens, c'est un roman très barcelonais, très catalan dans ce sens. L'histoire de cet homme, c'est l'histoire de l'Espagne, aussi c'est l'histoire de Barcelone.
Voilà. Donc vous avez écrit ce roman qui s'appelle L'imposteur autour de ce personnage, qui est un personnage qui existe, que vous avez rencontré, mais qui est un imposteur parce qu'il n'a pas été interné dans les camps, il n'a pas été une victime des nazis, ou en tout cas pas comme il a dit qu'il l'était. Et vous l'avez rencontré et vous avez voulu rechercher la vérité. Donc, il y a chez vous une volonté de rechercher la vérité historique, de replonger dans l'histoire espagnole, catalane, pour rechercher la vérité, enfin la vérité si l'on peut dire.
Oui, mais c'est pour le présent. C'est-à-dire, c'est pas un intérêt archéologique ou historique. Je ne suis pas un historien. Je suis intéressé au passé parce que je suis intéressé au présent. Et l'histoire de cet homme, évidemment, c'est une histoire très espagnole et très catalane et très barcelonaise. Mais j'insiste, pour moi, c'est une histoire universelle. Parce que ce livre parle en fait d'une chose universelle. La littérature, ce qu'il fait, c'est faire que les particuliers deviennent universels. Et ce livre, en fait, parle d'un fait universel. C'est le fait très catalan, très espagnol, mais très universel. C'est le fait que quand nous parlons de notre passé, si c'est passé, c'est un passé affreux, un passé de violence, un passé de guerre, de dictature, un passé laid. Le passé collectif, mais aussi le passé personnel, c'est que nous tous faisons, c'est le cacher, l'édulcorer. C'est la tendance de l'homme naturel. Ouais? C'est construire une histoire belle, une histoire. Non,
enfin, tout le monde ne aimable. Fait pas ça quand même.
C'est une tendance générale. Tout le monde ne fait pas, n'arrive pas à l'extrême où est arrivé Enric Marco, qui a inventé complètement sa vie. C'est un homme qui avait eu une vie complètement grise et complètement médiocre. c'est-à-dire comme la plupart des gens, et qui a inventé une vie héroïque, une vie mélodramatique, une vie très plus aimable, plus... non.
Et peut-être que vous aussi, ça, vous travaillez cette question, parce que vous expliquez dans ce roman que vous n'avez pas tout de suite pu vous attaquer à ce sujet de Marco. Il vous a fallu plusieurs années parce qu'il vous faisait peur. Est-ce qu'il vous faisait peur parce que vous-même, vous avez le sentiment que vous inventez aussi un certain nombre de choses sur votre vie ?
Mais oui, comme tout le monde. C'est-à-dire, affronter la vérité, c'est très difficile. Pour tout le monde. Et oui, c'était un sujet dangereux pour moi. C'était un sujet... J'avais peur. Parce que c'était une aventure dangereuse. Mais un écrivain qui ne veut pas faire ça n'est pas un écrivain. C'est-à-dire qui ne risque pas, selon moi, n'est pas un écrivain. C'est une autre chose. C'est-à-dire l'écriture, c'est une... il y a du risque personnel. Je me souviens de Michel Larive qui parlait dans un essai magnifique sur l'écrivain comme torero, ouais, comme et l'écriture comme une tauromachie. Alors c'est un peu comme ça. Il y a du risque toujours.
Mm-hmm. Vous êtes écrivain et ça tombe bien parce que considérez que au fond la vérité, elle existe peut-être autant dans la fiction que dans autre chose. C'est un peu ça, si je ne me trompe, l'idée aussi de ce livre, de dire que la fiction, c'est peut-être aussi vrai que ce qu'on appelle d'habitude la vérité, Javier Sarkaz.
Ce sont des vérités différentes. Une chose, c'est la vérité. Non, je suis un peu demandé, je crois qu'il existe que la vérité existe. Hein? Mais la vérité, disons, historique, la vérité journalistique, c'est une vérité factuelle, c'est une vérité pratique, c'est une vérité, non ? Mais il y a aussi une autre vérité. Disons, c'est la vérité de la fiction. C'est disons, la vérité littéraire, mm-hmm. non ? C'est une vérité différente. C'est une vérité, disons, morale, universelle. Ce qui cherche, ce qui se passe dans tout le monde, dans tous les lieux, et dans tous les pays, dans toutes les époques. Non ? Ce sont des vérités différentes. Et oui, à travers la fiction, on peut arriver à cette autre vérité. Non ? À travers l'histoire d'une femme qui s'appelle Madame Bovary, on arrive, qui n'existait jamais, et que c'est complètement inventé, on peut arriver à des vérités qu'on ne peut pas arriver à travers l'histoire ou à travers les journalismes, etc. Ça, c'est la vérité littéraire. C'est la vérité de la fiction.
Javier Sarkaz, vous êtes aussi l'auteur d'un essai intitulé « Le point aveugle » qui a été traduit chez Actes Sud en 2016. Vous développez une théorie selon laquelle il y a souvent un point aveugle au centre des romans et vous faites un parallèle entre le point aveugle de l'œil et le point aveugle des romans modernes. Et ce que vous racontez surtout, c'est à propos de votre roman « Les soldats de Salamine », c'est qu'il vous a valu de la part de Mario Vargas Llosa, une étiquette que vous n'avez pas appréciée. Parce que Mario Vargas Llosa a écrit un article à la sortie de votre roman et il a dit « Il faut absolument que tout le monde lise ce livre parce que c'est un livre de littérature engagée ». Et vous racontez ça dans Le Point Aveugle, c'est assez troublant parce que ça dit bien qui vous êtes parce que vous n'avez pas voulu. Vous avez refusé ce qualificatif d'écrivain engagé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous gênait tant?
Oui. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. Je parle sur ça dans ce livre. Mais essentiellement, ma génération était contre, absolument contre l'idée de l'écrivain engagé. Non, de cet écrivain qui participait dans la vie politique. On peut dire que ça, c'est la postmodernité. Mm-hmm. C'est-à-dire, on refuse d'une littérature qui voulait transformer le monde.
Donc vous détestiez Sartre, alors ?
Oui, absolument. Quand j'étais jeune, oui, absolument. Aujourd'hui, je pense que toute littérature, toute vraie littérature, c'est littérature engagée. C'est-à-dire que la littérature, c'est un jeu. Mais un jeu où on se joue tout, absolument. Et que la littérature peut changer, pas exactement, pas les mondes, mais changer la perception du monde du lecteur. Ça, c'est la forme dans laquelle la littérature change le monde. Et toute grande littérature, c'est-à-dire les grands écrivains, je ne dis pas que j'ai fait ça, ça serait ridicule, mais les grands écrivains font ça. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas postmoderne aujourd'hui, j'étais postmoderne aujourd'hui, je suis post-postmoderne, disons. C'est un peu une blague, mais bon. Et en même temps, je vois que je participe dans la vie, je fais des articles, je pris parti dans les débats politiques. Et alors, en certain sens, j'ai devenu ce que je ne voulais pas être.
C'est-à-dire, enfin, plutôt, vous avez découvert que ce que vous ne vouliez pas être, c'était peut-être pas si mal que ça.
Non, c'est pas mal. Et c'est que, si je parle sérieusement, je crois qu'on doit renouveler l'idée de la littérature engagée, faire voir que tous les grands écrivains, c'est-à-dire les héros de mon adolescence, qui sont aujourd'hui encore mes héros, Kafka, Borges, par exemple, que je pensais qu'ils n'étaient pas des écrivains engagés, parce qu'ils étaient, vous savez, Borges dans sa bibliothèque, Kafka perdu dans ses labyrinthes, et tout ça c'était faux. Et cette littérature, la littérature de Kafka, la littérature de Borges, c'est littérature engagée dans ces sens que je parle aujourd'hui, dans ces sens profonds, dans ces sens... Ils sont capables de nous changer notre perception du monde, de démasquer la réalité. Et démasquer, c'est changer. Et c'était pas vrai que Kafka ou que Borges ou que ces grands écrivains de mon adolescence qui sont encore mes héros étaient hors du monde, dans sa tour d'ivoire. C'est complètement faux. Ils étaient dans son monde. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient écrire ça. Et en écrivant, c'est un citoyen, finalement. Je suis un citoyen. Et j'écris dans El País deux fois par mois. Et je suis un citoyen qui paie ses impôts. Et alors, je parle de ces choses qui sont importantes pour moi.
Est-ce que cette prise de conscience, Javier Cercas, que finalement, l'engagement, il est ailleurs que là où vous pensiez qu'il était, que l'engagement, il prend d'autres formes que celles que vous pensiez qu'il prenait, et finalement, que vous aussi, vous pouviez être un écrivain engagé, accepter d'être un écrivain engagé. C'est quoi la définition, alors, de l'écrivain engagé pour vous ?
Pour commencer, c'est quelqu'un qui écrit une littérature qui veut être relevant, important, qui veut faire des choses, qui veut changer les lecteurs, ouais. Qui ne veut pas seulement entretenir les lecteurs. Ça pour commencer. Et après, c'est quelqu'un qui participe de la vie sociale, parce qu'il a la possibilité de participer dans la vie sociale, avec ses écrits, avec ses... Mais il n'est pas une voix différente, il n'est pas un prophète ou un maître ou quelque chose comme ça. Il n'a pas plus d'autorité que quelqu'un.
Mais Flaubert, par exemple.
Ah, mais absolument.
Est-ce qu'il est engagé, Flaubert ?
Dans ce sens, absolument. C'est-à-dire, sa littérature, c'est une littérature engagée totalement. C'est vrai qu'il n'est participé dans les débats, c'est vrai. Mais il avait une idée très claire sur les pays où il vivait. Disons, l'exemple de Flaubert, c'est magnifique, parce qu'il était un homme complètement dévoué à son métier, fanatiquement dévoué à son métier. C'est l'exemple parfait, non ? L'homme qui croit à le pouvoir absolu de la littérature, ça c'est un écrivain engagé, pour moi. Il n'y a pas une contradiction entre la passion de la parole, la passion de la littérature et la passion du monde sont la même chose, en fait.
Et vous-même, en ce moment, Javier Cercas, vous prenez position, vous publiez des articles un peu partout dans le monde. Alors, vous en publiez aussi dans El País. On a pu lire, par exemple, une tribune de vous traduite dans Libération. Et vous prenez position sur les événements qui se passent en ce moment en Catalogne et la question de l'indépendance du rapport avec Madrid. Qu'est-ce qui vous semble problématique dans la démarche aujourd'hui des indépendantistes en Catalogne?
Je ne suis pas nationaliste. Je crois que le nationalisme, c'est une mauvaise idée. Je suis européiste, extrémiste, C'est-à-dire, je crois que l'unique utopie raisonnable que nous, Européens, ont inventée, c'est l'idée d'une Europe unie. Et cette idée de la Catalogne indépendante, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est une mauvaise idée. C'est contre cette idée de l'Europe unie. Mais s'il y aurait, disons, un 10% énorme de Catalans qui veut l'indépendance, alors, évidemment, il faudrait faire quelque chose. Le problème, en fait, l'avantage, le privilège, c'est qu'il n'y a pas cette majorité de Catalans qui veut l'indépendance. Il n'y a pas, ça n'existe pas. L'indépendantisme catalan a voulu créer l'illusion perverse que ça existait, que c'est toute la Catalogne qui était pour l'indépendance. Mais c'est complètement faux. Et on a démontré ça une fois et une autre, une autre, une autre. Et c'est que je suis complètement contre les gens comme les indépendantistes qui ont brisé les formes de la démocratie. Bien sûr, au nom de la démocratie.
Et vous avez cette expression, vous dites que c'est une fiction narcissique, cette idée de l'indépendance de la Catalogne, nourrie pour vous par les gouvernements nationalistes successifs. Et là, on retrouve évidemment l'écrivain qui travaille sur la question de la fable, la question de la fiction. Pour vous, c'est une fiction que les gouvernants indépendantistes ont mis dans la tête d'un certain nombre de personnes ici en Catalogne. Je ne me trompe pas quand je dis ça?
Je ne me trompe pas. Il faut savoir que, que l'Espagne, c'est dans des pays plus décentralisés du monde. Plus décentralisés du monde. Et que les gouvernements catalans, il faut savoir ça en France, surtout que c'est un pays très centralisé. L'Espagne, c'est complètement décentralisé. Et que le gouvernement catalan a un pouvoir énorme, énorme dans tous les sens. Économique, l'éducation, tout, la police, tout. Et ils ont utilisé ces pouvoirs pour construire cette fiction pendant 40 ans, pour construire cette fiction narcissiste, selon laquelle les Espagnols sont des monstres franquistes et les Catalans nous sont tous magnifiques, très intelligents, très
européens. Elle ne vient pas de quelque part, cette fiction, elle n'a pas, puisqu'on parlait de vérité tout à l'heure, elle n'a pas une source qui est une source vraie, qui existe vraiment.
Oui, oui, les sources, c'est exactement les sources qui a donné la vie à, qui a créé Enric Marco, le protagoniste de l'imposteur. C'est l'idée que nous sommes, que je suis magnifique, que mon passé c'est magnifique, que je suis très, très beau, très intelligent et très, c'est-à-dire cette incapacité d'accepter la vérité avec toutes ces nuances, avec tous ces, mais cette différence que les indépendantistes trouvent entre l'Espagne et la Catalogne, c'est complètement ridicule.
Ça ne vous donne pas envie d'écrire encore,
oui,
en particulier sur ce sujet de l'indépendance?
Oui, on verra. On verra. Aujourd'hui, je me sens un peu comme, comme Fabrizio Del Dongo, le protagoniste de la Chartreuse de Parme, quand il est à Waterloo. Il ne voit, vous vous souvenez, non? Il est un idéaliste. Il aime Napoléon. Il veut faire l'histoire et tout ça. Il va à Waterloo, il ne comprend pas rien, il ne voit rien, seulement la poussière, les chevaux, il ne reconnaît pas l'empereur quand il le voit, non ? Je me sens un peu comme Fabrizio Del Dongo, encore la poussière dans l'air, encore le bruit, encore. Pour écrire et pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment là, il faut que la poussière va en terre et que le bruit
se calme
et alors on pourra voir qu'est-ce qui s'est passé.
Donc on attend ce roman pendant quelques années. Merci beaucoup. Merci. Javier Cercas.
Merci beaucoup.
Voilà pour cet entretien avec Javier Cercas dans son bureau de Gracia, universitaire, chroniqueur pour El País. On le sait, l'un des grands écrivains espagnols actuels, son roman L'Imposteur, paru en 2014, a été traduit et publié chez Actes Sud en 2017. Dernier moment de notre série barcelonaise dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Rencontre à présent avec Raphaël Argullol pour parler toujours de Barcelone, de son esthétique, de Gaudi et de la question de l'indépendance catalane. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un écrivain et un penseur catalan et de langue castillane. Vous êtes auteur de 25 livres qui ne sont pas encore traduits en français, comme par exemple « Visiones desde el fondo del mar ». Mais on peut néanmoins lire en français dans la traduction de Fabien Guillen, qui va assurer également la traduction de notre entretien aujourd'hui. Le texte que vous avez donné au livre qui est l'objet de notre semaine aujourd'hui dans la compagnie des auteurs, le livre « Barcelone », coordonné par Pierre Ducrozet. Ce texte, vous l'avez appelé « Gaudi, mon spectre familier ». On va en parler ensemble. Mais avant cela, comme vous êtes aussi professeur d'esthétique, j'aimerais vous demander d'abord si on peut définir une esthétique qui serait une esthétique de Barcelone.
Creo que sí, se puede definir a través de distintas coordenadas. Es una ciudad mediterránea, en primer lugar. En segundo lugar, es una ciudad que tiene un componente antiguo muy, muy potente, en parte procedente de la época romana, también por el hecho de que tiene el barrio medieval más grande de Europa, y al mismo tiempo tiene un componente moderno indiscutible a través de el tipo de arquitectura que se realiza a principios del siglo XX. Por tanto, serían las coordenadas.
Je pense, oui, qu'il est possible de définir une esthétique de la cité de Barcelone qui dépendrait de quatre grandes coordonnées. Le fait que ce soit une cité méditerranéenne, la très grande présence de la composante antique et particulièrement romaine, un ensemble médiéval qui est le plus vaste d'Europe, et enfin une composante moderne également, qui est presque unique.
Et alors, d'un point de vue personnel, quelle est, vous, cette chose que vous aimez dans Barcelone, quelle est la vision de Barcelone qui vous plaît à vous le plus?
J'aime beaucoup le quartier, el barrio que se llama El Ensanche. Uh-huh. Yo vivo en él, vivo muy cerca de aquí, en la Rambla de Cataluña. Me gusta el carácter racionalista, pero al mismo tiempo popular, del Ensanche. Pero por otro lado, a mí me gusta mucho perderme en el barrio medieval y desde luego en lo que es el barrio marítimo.
Pour sa part, ce qu'il souligne, c'est à quel point il aime l'Ensanche ou l'Eixample, où il vit tout près d'ici, Rambla de Catalunya. Il aime ce caractère géométrique particulier de l'Ensanche, mais il aime bien se perdre aussi dans la vieille ville et aussi dans le quartier maritime, c'est-à-dire celui de Santa Maria del Mar, El oui. Born,
la Barceloneta.
Alors, s'il y a un signal esthétique de Barcelone, c'est évidemment la Sagrada Familia de Gaudí. C'est l'emblème de la ville, Rafael Argüello.
Ahora, para los turistas, es el emblema de la villa. Antes había varios emblemas, pero el que se ha impuesto un poco como la Tour Eiffel en París es la Sagrada Familia, con la circunstancia icónicamente interesante de que es un icono en metamorfosis, en transformación, porque el icono internacional actualmente son las cuatro torres, pero dentro de poco tendrá un aspecto completamente distinto.
En effet, la Sagrada Familia pourrait être l'icône de Barcelone, avec ceci de particulier que c'est une icône en permanente transformation, puisque pour l'heure, ce sont les quatre tours qui représentent cette particularité de l'icône, mais dans quelques temps, elle se sera parfaitement transformée, elle n'aura plus du tout ce même aspect.
Donc il n'y a pas d'autre exemple de symbole d'une ville qui ne soit pas achevée et qui soit mouvant.
Bueno, porque la Sagrada Familia es muy especial, porque es como la construcción de una catedral, pero construida en el siglo XIX, XX y XXI. Y además es la construcción de una catedral en la época en que la religión cristiana está como en descenso. con lo cual tenemos una catedral, pero no sabemos a qué Dios será ofrecido.
Donc oui, cette mouvance de la, on peut encore le voir symbolisé dans le fait que cette cathédrale a été construite sur 3 siècles et qu'évidemment elle est le produit de transformations intenses, mais en même temps elle est consacrée à un Dieu auquel que l'on ne connaît pas finalement, puisqu'il n'est probablement pas le Dieu du monothéisme chrétien, puisqu'il est en décrue permanente.
Vous voulez dire, Raphaël Argouliol, qu'en 2020, quand la Sagrada Familia sera terminée, quand la dernière cathédrale d'Europe sera achevée, et ben finalement, les Européens auront cessé d'être chrétiens ou d'être religieux?
Yo he nacido en la religión católica, pero como tantos de mi generación, pues nos hemos apartado del cristianismo. Sí, es una catedral que nace en la tradición cristiana, pero el destinatario actual de la catedral es el turismo de masas, con lo cual diríamos que de momento tiene un público idolátrico. Ya veremos el público que tendrá en el futuro.
Comme grande partie de ma génération, je suis née dans le christianisme, et comme pas mal d'entre nous, je m'en suis écartée. Et je considère aujourd'hui que le destinataire de cette cathédrale est plutôt un public d'idolâtres. Et je ne suis pas capable de dire à quel type, enfin quel dieu, cette idolâtrie va se vouer dans l'avenir.
Alors cette Sagrada Familia, elle a pour vous une importance tout de même particulière, et vous le racontez dans le texte que vous avez donné au volume Barcelone. Quand vous étiez enfant, vous y alliez régulièrement.
Yo había ido varias veces con mis padres, con mi familia, pero además la Sagrada Familia ha pasado por distintas etapas, porque hubo un momento cuando yo era universitario que lo que era propio de la izquierda era criticar la Sagrada Familia, no continuar la construcción, e incluso había algunos que la querían convertir en un parking, y luego se convirtió en un icono internacional, y en estos momentos pues yo creo que es un edificio que visitan muchísimo más los extranjeros que los barceloneses, y que los barceloneses ven con una mezcla de admiración y de inquietud.
Une des petites manies de la gauche catalane était d'éliminer cette chose gênante qui était la Sagrada Familia, peut-être la transformer en parking finalement, s'en défaire, dans la mesure où il semble que les citoyens de Barcelone entretiennent avec ce monument une ambiguïté permanente entre l'admiration qu'elle provoque et l'inquiétude. Ce qui fait que du même coup, c'est un temple qui reçoit beaucoup plus des visites d'étrangers que des Catalans eux-mêmes, et particulièrement des Barcelonais.
Et vous imaginez qu'un jour, vous allez aller à la Sagrada Familia et que vous allez voir le spectre de Gaudi. Vous imaginez ça dans votre texte, ce fantôme de Gaudi. Mm-hmm. Pourquoi avoir imaginé ça?
Bueno, porque el personaje Gaudí es un personaje que despertó en mi infancia una gran fuente de imaginación. Era un hombre como leyenda y como mito muy, muy popular, y a partir de aquí desarrollo en el texto que he incluido en el libro una relación ficticia, en la cual de alguna manera Gaudí y la Sagrada Familia sirve también para realizar mi propia autobiografía.
Il faut reconnaître que Gaudí est un individu extrêmement populaire, et sa légende court à peu près partout dans la ville. Il m'a permis sa présence, sa récurrence dans le texte m'a permis surtout d'aborder des éléments de ma propre autobiographie. C'est surtout ça, son sens.
Et qu'avez-vous voulu dire sur vous-même?
Bueno, me enseña mucho Gaudí sobre lo que es la relación que tenemos con el cosmos, la relación que tenemos de alguna manera con nosotros mismos. Es un hombre muy complejo espiritualmente. Yo creo que es un error reducirlo a una visión puramente católica. Es un hombre lleno de contradicciones. Por un lado, era, a pesar de que no pueda parecerlo, un gran racionalista; por otro lado, era un místico. Y por tanto, digamos que las dos almas que residen en mí, que es la contemplativa mística y la racionalista, también la reconozco en Gaudí.
Ce qui me semble le plus important, c'est que au travers du personnage de Gaudí, qu'il est peu souhaitable de réduire à un catholique simple, et qu'il est plus intéressant de percevoir dans sa contradiction entre son caractère mystique et son caractère rationaliste, et à travers cette duplicité de la personnalité de Gaudí, je retrouve ma propre duplicité, ma propre contradiction, même a-t-il dit, entre mon côté mystique, spiritualiste mystique, et mon côté rationaliste.
Et peut-être que ce côté mystique que vous liez à Gaudí vient aussi du fait que vous avez été très marqué dans l'enfance par l'histoire de la mort de Gaudí.
Très marqué, muy marcado no, pero no solo la obra, sino el personaje Gaudí está rodeado de luces y sombras, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Gaudí está muy incrustado en la propia memoria de Barcelona. A través de Gaudí nosotros podemos reconocer pues el alma anarquista de Barcelona, podemos reconocer el alma revolucionaria y también la conservadora, es decir, conservación y revolución a través del personaje Gaudí se refleja muy bien.
L'intérêt d'un personnage comme Gaudí, qui est un personnage d'ombre et de lumière, c'est aussi de le retrouver comme incrusté dans l'âme de la ville et dans sa chair. Il est à la fois l'âme révolutionnaire, l'âme anarchiste, et aussi l'âme conservatrice de la ville, très paradoxalement.
Pourquoi conservatrice à cause de la religion?
En el texto del libro yo defino la Sagrada Familia como monstruosa, como un monstruo. Y creo que es una definición acertada porque el monstruo, por un lado, nos ilusiona, despierta nuestra fantasía, pero tiene algo de incomprensible. Yo creo que lo fascinante de la arquitectura de Gaudí es que es incomprensible. Eso es lo que hacía que cuando Le Corbusier venía a Barcelona, se negaba a ir a visitar la Sagrada Familia porque le desconcertaba demasiado.
Dans le texte, j'emploie le mot de monstre concernant la Sagrada Familia, et je crois que ce n'est pas inapproprié, dans la mesure où le monstre est ce qui à la fois éveille notre imaginaire, le fait voyager, le fait s'engager même, et en même temps nous inquiète profondément. C'est ce qui me rappelle Le Corbusier, qui, lorsqu'il voyageait à Barcelone, refusait catégoriquement d'aller visiter la Sagrada Familia, qu'il ne comprenait pas.
Un autre sujet qui serait la littérature catalane aujourd'hui. Alors d'abord, je ne vous ai pas demandé si vous vous considériez comme un écrivain d'abord catalan ou espagnol.
Moi-même, je me considère un écrivain universel, fondamentalement catalan pour origine, con vocation européenne, et qui écrivait fondamentalement en langue espagnole, aunque también he escrito algunas cosas en catalán.
J'aime à me considérer un auteur universel par la naissance. Je suis catalan. J'écris en langue espagnole, bien que j'ai écrit quelques textes en langue catalane.
En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con la aspiración de Goethe, que hablaba de una Weltliteratur, de una literatura universal. Yo creo que la literatura debería ser universal y deberíamos quedarnos lo mejor de cada época, independientemente de los países.
Je me sens très proche de la perception de Goethe et de la Weltliteratur, donc la littérature universelle. Et il me semble que dans l'histoire de la littérature, nous devrions conserver le meilleur de chaque littérature, indépendamment des nations, des pays.
Alors, quel serait, pour les auditeurs français qui ne connaissent pas la littérature catalane, quel est le meilleur de cette littérature qu'il nous faudrait découvrir, selon vous?
Yo nunca hablo de vivos, siempre están muertos los que hablo. Por ejemplo, Josep Pla, por ejemplo, Carla Riba, Josep Carné, diversos nombres. Me cuesta mucho, históricamente, evidentemente, Ramon Llull, Ausias Marc, me cuesta mucho hacer un canon de nombres, ¿no?
Il est très difficile de donner des noms d'auteurs vivants, donc je me référerai plutôt à des auteurs de la tradition littéraire. Josep Pla, évidemment, Carla Riba, Simon Carnet, et en remontant beaucoup plus loin, Ramon Llull et aussi Ausias Marc.
Et tout à l'heure, je vous ai demandé de définir l'esthétique de Barcelone, et vous y êtes parvenu. Est-ce qu'on peut définir aussi l'esthétique de la littérature catalane?
Es una estética que en sus mejores momentos podría ser definida como mediterránea europea y en sus peores momentos como atormentada por no saber si quiere ser una república apartada de todo Estado o si quiere ser un Estado. Porque una de las ventajas de Cataluña sería que no tuviera Estado, que fuera una república ácrata. Pero, por otro lado, siempre hay ese tormento por tener un Estado alternativo al Estado español y por el peligro, en el caso de la lengua, por el peligro sistemático que ha tenido el catalán como lengua.
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La littérature catalane, dans ses meilleurs moments, est à la fois méditerranéenne et européenne, résolument tournée vers l'extérieur. Et dans ses pires moments, elle vit le tourment de ne pas savoir se décider entre être une république ou une république des lettres ou un État. Une république, l'idéal serait qu'elle soit une république. Son gouvernement, donc anarchiste au meilleur sens du terme, et pourtant elle est sans cesse tiraillée vers la nécessité de l'État. Et elle se trouve dans ces moments-là confrontée au problème de sa langue, une langue toujours en péril.
Bueno, respecto a lo último, yo creo que forma parte de la idiosincrasia de los catalanes, que en realidad, aunque aspiran a tener un Estado propio, su sueño real es una especie de situación libertaria.
J'aimerais ajouter que, bien que les Catalans puissent songer parfois à un État, le songe qui les habite aussi, c'est celui d'une structure libertaire, d'une...
C'est bien, comme ça on a une vraie conclusion finalement, une vraie solution à tout le problème de la Catalogne. Merci beaucoup Raphaël Argouliol.
Merci. Muy bien, gracias.
Ainsi s'achève cette série de la Compagnie des auteurs spéciales Barcelone, à l'occasion donc de la parution du livre dirigé par Pierre Ducrozet et consacré à cette ville dans la collection Bouquins, chez Robert Laffont, la collection dirigée par Jean-Luc Barré. Dès lundi, nouvelle semaine, nouveau sujet. Nous serons en compagnie de Philippe Le Guillou au premier jour d'une série consacrée à Julien Gracq, l'auteur notamment du Rivage des Sirtes. Mais avant cela, et comme chaque jour, on trouve à présent Jacques Bonafé, la poésie.
Bonjour. Comme chaque année, le printemps ouvre ses fenêtres et sourit vertes aux poètes qui n'ont pas froid aux yeux. Il y a du lilas et il y a des mains tendues. Sur le ciel, le soleil va paraître. Boum, tiens, voilà l'ardeur, c'est le thème. Oui, mais quand arrivent les ardeurs, on dit aussi qu'il faut les calmer. Sauf peut-être quand le printemps se pointe des poètes à ses feuilles, alors pardonnez-moi, mais les ardeurs reprennent du poil. Nous allons traiter dans les jours qui viennent des hardis. C'est bien le moins après l'ardeur. Avec des précautions quant aux liaisons. Après les ardeurs, les hardis ne conviendraient pas sur une radio de notre excellence. Après les ardeurs, les hardis sont ces anciens de 68 toujours pas couchés et qui continuent à tout contester, tout secouer. Prenez Verhaeghen, prenez Marcel Moreau dans Le violoncelliste. Heureusement, il y a le rythme. Heureusement, il y a cette trépidation de tous les mots en moi qui n'a jamais cessé d'unir dans une même pulsion dansante mes instincts belliqueux et mes prédispositions à l'amour. Rythme est une effervescence respiratoire à l'écoute des verves souterraines. Rythme, prends mes jambes, fais-en des roues. Prends mes roues, fais-en des bolides, prends mes bolides, fais-en des éclairs, prends mes éclairs, fais-en la folie, rythme, saisis-moi au cou, au bras, aux hanches, aux reins, aux pieds, caresse-moi, pince-moi, barate-moi, fais que je tourne, que je tourbillonne, dangereusement, que je sue, que je perde haleine, qu'haleine je ne puisse reprendre, que d'écume je sois blanc, que de sueur j'ordonne le grand déferlement, mets en moi le mouvement dansant, guerrier, bachique, qui vipère le cou, qui liane les bras, qui négresse les hanches, qui panthère les reins, qui gazelle les pieds, rythme. Mets en moi le fabuleux mal des cadences, cadence blonde, cadence noire, blonde d'offrande physique, noire de musculante, libre, rouge aussi car le sang allume la saltation aux torches d'ossature. D'ossature, d'ossature. La semaine prochaine, nous continuerons avec Marcel Moreau, le violoncelliste. Et puis nous retrouverons Jean-Pierre Verhaeghen dans le degré Zorro de l'écriture. Voici le mort de la faim. Le mot de la faim? Non, le mort de la faim. Je ne sais pas, moi, nier, nier, nier. Peut-être bien, nier, nier, nier. Laissez-moi réfléchir. Nier, nier, nier. Accordez-moi une minute. Nier, nier, nier. Je ne peux pas décider en 2:33 mouvements. Nier, nier, nier. Je vous dirai quoi demain. Nier, nier, nier. Donnez-moi le temps de me retourner. Nier, nier, nier. Ça ne se fait pas comme ça. Nier, nier, nier. Faut voir. Nier, nier, nier. Vous me prenez au mot. Nier, nier, nier. Attendez encore un peu. Nier, nier, nier. Vous allez vite en besogne. Nier, nier, nier. Ce n'est pas si simple. Nier, nier, nier. Qu'est-ce que vous croyez? Nier, nier, nier. Je ne suis pas à pièce. Nier, 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 il faut que je souffle un peu. Nier, 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 eh, nier, 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 laissez venir. Nier, 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 non, il faut te décéder tout de suite, Verhaeghen. Et voici ce qu'en pense Paul Valéry dans une citation tirée de L'Ardeur, ABC poétique du Vivre Plus. L'état de danse, il parle de la poésie, l'état de danse, une sorte d'ivresse qui va de la lenteur au délire, d'une sorte d'abandon mystique à une sorte de fureur. Paul Valéry.
Merci Jacques Bonafé pour cette semaine consacrée à l'ardeur en résonance avec la thématique du printemps des poètes. Vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Marcel Moreau et Jean-Pierre Verhaeghen.